Alors en fait, ça va dépendre un tout petit peu de. Bon, forcément, comme vous avez dit, le conjoint joue un rôle souvent important, mais en fait, le médecin va voir plusieurs situations. D'abord, ça peut être des plaintes qui concernent la nuit, donc des gens qui se présentent avec des plaintes d'insomnie, de fragmentation du sommeil, qui se réveillent souvent. Parfois, avec des gens qui se réveillent en ayant besoin d'aller aux toilettes pendant la nuit, par exemple, plusieurs fois. Et puis après, bien entendu, y a les plaintes qui sont plutôt. Qui manifestent les problèmes liés à la journée, donc à un sommeil de mauvaise qualité. Donc en particulier, ils se réveillent fatigués, ils ont vraiment beaucoup de difficultés à se lever, avec parfois des maux de tête le matin, puis après des répercussions dans la journée, avec des gens qui vont se présenter avec la plainte classique qui est la somnolence, donc cette tendance à s'endormir un peu n'importe où, n'importe comment, y compris en voiture. Donc il y a des gens qui peuvent se présenter suite à des alertes parce que justement ils n'arrivent plus à conduire sur l'autoroute, par exemple. Et puis après, on a aussi des gens qui vont se présenter avec des plaintes plus subtiles, qui peuvent être des problèmes de dépression, des problèmes de mémorisation, de concentration. Et enfin, il y a des gens qui se présentent avec rien du tout, donc ils n'ont aucune plainte, mais c'est leur médecin traitant qui les a adressés parce qu'ils ont peut-être des complications cardiovasculaires qui pourraient faire évoquer un problème de syndrome d'apnée du sommeil.
On l'a dit, 4% des hommes, 2% des femmes touchées. Comment ça se fait que les hommes soient plus concernés par l'apnée du sommeil que les femmes?
Alors, il y a des questions de morphologie aussi, bien entendu, mais il y a aussi une certaine inégalité des fois au niveau de la médecine, parce qu'en fait, il y a probablement aussi un problème de recrutement, simplement parce que les femmes sont probablement moins attentives ou sont plus réticentes à parler de problèmes, par exemple, de ronflement nocturne. Et puis on sait aussi que les
parce
femmes...
Parce qu'on est toutes des princesses,
mais bien
on
entendu,
ne ronfle pas,
bien
c'est
entendu,
ça. Hein.
C'est évident. Et puis il y a aussi un problème, c'est que parfois les femmes se présentent avec des plaintes qui sont justement un petit peu différentes des hommes, notamment la journée, avec des plaintes qui peuvent être plus de l'ordre de la dépression, etc., qui sont moins marquées par la somnolence, justement. Et donc c'est retard des fois où ça fait que les femmes sont moins dépistées au niveau du syndrome d'apnée du sommeil.
Quelles sont les causes de l'apnée du sommeil ou des apnées du sommeil?
Alors effectivement, vous avez dit des apnées du sommeil, donc ça c'est juste, parce qu'en fait il y a plusieurs types d'apnées du sommeil. Donc les apnées du sommeil principales, c'est ce qu'on appelle les apnées obstructives, qui sont celles liées vraiment au ronflement qu'on rencontre dans plus de 90% des cas pour nous les médecins. Mais après, donc si on se focalise sur les apnées obstructives, il y a bien entendu dans nos pays le surpoids, l'obésité qui joue un rôle très important. Mais il y a aussi des gens tout à fait qui n'ont pas de surpoids, qui peuvent présenter des apnées du sommeil, par exemple pour des problèmes anatomiques, donc simplement parce qu'ils ont un pharynx, donc la partie qui se trouve derrière la langue, la partie des voies aériennes au niveau du cou, qui sont défavorables au niveau de l'anatomie, qui peuvent favoriser justement le fait d'avoir des apnées. Et puis maintenant, on a aussi d'autres hypothèses qui sont un tout petit peu plus complexes, qui reposent en fait sur le contrôle respiratoire, donc des problèmes de centre respiratoire et de contrôle d'automatisme de la respiration pendant la nuit, donc des choses un tout petit peu plus compliquées que uniquement un phénomène anatomique ou lié au poids.
Alors, on a dit, on parle de fatigue, de somnolence pendant la journée. On imagine, vous l'avez cité, hein, les risques d'accident de la route, par exemple. Mais quelle incidence les apnées du sommeil, elles peuvent avoir sur la santé globale du patient, de la personne qui est touchée par ces apnées?
Alors, bien entendu, le fait d'avoir un sommeil de mauvaise qualité va induire justement des phénomènes de somnolence qui, elles-mêmes, peuvent poser des problèmes. Non seulement au niveau du volant, de la conduite automobile, mais également au niveau professionnel, bien entendu. Des gens qui prennent justement des phénomènes de dépression, donc des phénomènes qui peuvent être extrêmement embêtants, parfois sur plusieurs années, et des gens qui sont traités, retraités, pour qui ont vu des psychiatres, encore des psychiatres, pour des problèmes de ce type-là. Et puis après, il y a alors un grand paquet, on va dire, qui est la répercussion cardiovasculaire. Donc le fait de faire des apnées pendant la nuit, c'est quelque chose qui va accélérer la fréquence cardiaque, augmenter la tension artérielle, et sur 5, 10, 15, 20 ans, peut être un facteur en fait, d'usure du système cardiovasculaire et peut conduire justement à des catastrophes comme des infarctus, des accidents vasculaires cérébraux. Puis on sait aussi maintenant que les apnées du sommeil ont une influence sur les autres facteurs de risque cardiovasculaire, comme par exemple le diabète, le cholestérol, l'hypertension, justement. Donc c'est un phénomène où les apnées du sommeil aggravent les autres facteurs de risque cardiovasculaire.
Les apnées du sommeil, ça se traite comment ?
Alors, les apnées du sommeil, donc, il faut bien se représenter le problème. Donc, c'est en fait au niveau du pharynx, donc la partie qui se trouve derrière la bouche, qui a tendance à s'affaisser pendant la nuit et de façon répétitive. Donc, le but, le traitement emblématique des apnées du sommeil dont on entend toujours parler, c'est ce qu'on appelle le CPAP. Donc, c'est un système qui permet, un système qui pousse de l'air à une certaine pression par l'intermédiaire d'une machine et d'un masque, qui va permettre justement de stabiliser les voies aériennes et donc, par la même occasion, supprimer le ronflement et donc faire en sorte que les gens respirent simplement normalement. Mais ça, c'est vraiment le traitement emblématique. Mais je pense que maintenant, on essaie vraiment de voir le traitement de façon beaucoup plus large parce que, bien entendu, il faut axer aussi le traitement sur la prise en charge de l'hygiène de vie, notamment la perte de poids. Ça, c'est très, très important. Il y a maintenant la prise en charge au niveau des autres facteurs de risque cardiovasculaire, donc l'hypertension, le diabète, le tabagisme aussi, s'il y en a. Et puis aussi, maintenant, ce qui ressort et de plus en plus, c'est l'activité physique. Donc, comme quoi, on retombe toujours sur ses pattes à la fin, au niveau de la santé, puisqu'on sait que l'activité physique, c'est aussi un phénomène, maintenant, en tout cas dans les syndromes d'apnée du sommeil relativement légers, qui pourra avoir un rôle tout à fait favorable en faisant diminuer aussi un certain nombre d'apnées. Mais c'est vrai que le traitement emblématique, ça reste le CPAP, donc cette fameuse petite machine qui est extrêmement efficace.
Alors, on parle souvent du fait que c'est un problème mécanique, hein, vous dites, d'obstruction du larynx, etc. Est-ce qu'une solution chirurgicale, elle peut être donnée à ces apnées du sommeil, ou alors est-ce que le CPAP, c'est la solution la plus efficace ?
Alors, la chirurgie, c'est quelque chose qu'on a beaucoup discuté il y a 15-20 ans en arrière, en espérant pouvoir justement mettre un point final à ce problème. Mais clairement, on s'est rendu compte que c'était une mauvaise solution, parce que en fait, ça touche plusieurs étages de la filière pharyngée, donc derrière le nez, derrière la bouche, au niveau du larynx, et donc c'est difficile d'avoir une opération qui permettrait de traiter tout à la fois. Donc en fait, ça ne marche pas bien. Donc c'est quelque chose qu'on ne fait quasiment pas. Aux États-Unis, il y a eu des opérations extrêmement lourdes qui ont été faites, qui marchent, mais c'est pour des cas exceptionnels. Donc en gros, c'est quelque chose qu'on ne fait quasiment plus. Il existe maintenant une approche chirurgicale qui est liée à la mise en place d'un espèce de pacemaker, donc d'un stimulateur qui va activer certains muscles pendant la nuit, mais c'est aussi actuellement quelque chose de peu accessible et qui reste réservé à un nombre très limité de patients et qu'on ne fait encore pratiquement pas en Suisse. Donc la chirurgie, ça reste quelque chose d'exceptionnel et qu'on a plutôt tendance à décourager en fait.